8 novembre 1620, les armées protestantes de Bohême sont défaites par les troupes habsbourgeoises catholiques, mettant un coup d'arrêt définitif à la liberté de confession en pays tchèque et amorçant le processus de la contre-réforme. Avec Nicolas Richard, docteur en français en co-tutelle entre Paris et Prague, Anna Kubishta s'est intéressée à son sujet de thèse consacré au clergé catholique dans la période qui a suivi cette fameuse bataille. Nous vous proposons la seconde partie de cet entretien.
Chapitre de l'histoire.
Nicolas Richard, vous êtes doctorant. Nous sommes intéressés dans une première partie de cette rubrique historique aux raisons pour lesquelles vous avez commencé à étudier l'histoire du clergé après la bataille de la Montagne Blanche en Bohême. Également, nous sommes intéressés à l'importance des églises baroques dans la reconquête de la contre-réforme. Dans cette deuxième partie, j'aimerais évoquer le rôle des jésuites, puisqu'évidemment, ils ont eu un rôle extrêmement important dans cette reconquête catholique dans la Bohême hérétique du XVIIe, XVIIIe siècle. Alors justement, ces jésuites dont on sait que souvent ils avaient une faculté d'intégration, presque d'incarnation avec les populations qu'ils essaient de conquérir. Comment justement font-ils pour conquérir ces âmes et ces brebis perdues?
Alors le problème des jésuites est que pour les étudier, il faut être extrêmement prudent parce que les premiers ennemis des jésuites sont les jésuites eux-mêmes. L'historiographie jésuite à la gloire de la compagnie dès le XVIIe siècle est quelque chose d'extraordinaire. Il est difficile de ne pas se laisser prendre au piège de leurs relations qui sont des merveilles de publicité, pour employer un terme moderne. Ces lettres fournissent des récits de conversion, des récits de mission qui sont extrêmement détaillés. On n'en retrouve pas ailleurs dans les archives de comparables. Mais d'un autre côté, les utiliser est un véritable problème. Donc, comment s'y prennent les jésuites une fois qu'on a fait la part de la difficulté d'entrer vraiment dans l'historiographie jésuite? Il faut bien considérer que la force, du moins en Bohême, des jésuites, c'est d'avoir su créer des collèges, c'est d'avoir su former très rapidement, dès le XVIe siècle, une compagnie assez forte, assez nombreuse, de gens qui parlent tchèque, voire qui sont d'origine tchèque et qui sont intellectuellement capables de polémiquer avec les protestants tchèques. Ça, c'est la force de la compagnie. Et dès le lendemain de la Montagne Blanche, est créée la province bohème de la Compagnie de Jésus. C'est une province qui compte entre 200 et 300 pairs, si je ne m'abuse. Donc la Compagnie de Jésus forme véritablement un diocèse dans le diocèse de Prague. Mais ces jésuites ne s'intéressent pas directement à la gestion au quotidien des paroisses. Eux, ce qu'ils font, ce sont d'abord des missions qui sont en fait de deux types. Il y a des missions de conversion liées aux commissions de reconquête, donc des missions de conversion où on explique aux gens pourquoi ils doivent se convertir à la foi catholique. Il y a aussi un deuxième point qui est important pour convertir la population, c'est la question du calice, souvent. Parce que le calice a été...
Ça a été le symbole des ultracuistes avant tout. Enfin, c'est le symbole des protestants, en tout cas des hussites. Ouais.
Voilà, c'est le symbole des hussites. Mais les autres protestants l'ont utilisé pour prouver que quand le Christ dit « prenez et buvez-en tous », c'est-à-dire que tout le monde doit boire au calice, donc tout le monde doit recevoir la communion sous les deux espèces, c'est un commandement du Christ et que l'Église de Rome ne respecte pas. Donc l'Église de Rome ne peut pas être la vraie Église catholique. Voilà le raisonnement des protestants, non seulement ultraquistes, mais plus largement luthériens, unité des frères, etc. Que font les jésuites et que font plus largement les polémistes catholiques? Ils essaient de prouver et d'expliquer aux fidèles pourquoi il y a eu la suppression du calice dans l'Église catholique, pourquoi l'Église catholique a le droit qu'elle tient du Christ de le faire. Et ce sont deux points très importants de la polémique, et ce sont souvent les deux points autour desquels tournent les tentatives de construction et de conversion, pardon.
On sait évidemment que, disons, le pouvoir catholique a récupéré ou plus ou moins inventé la légende de Saint Jean Nepomucène. Est-ce qu'il y a d'autres outils symboliques comme celui-ci qui sont utilisés par le pouvoir catholique pour disons, convertir ou reconvertir, reconquérir?
Pour la légende de Saint Jean de Pomucène, bon, c'est un très vaste sujet. Il y a un très bon livre sur la question, de Rack, notamment. Il est certain que la légende de Saint Jean de Pomucène, ce n'est pas une invention de la fin du XVIIe siècle, au moment où commence à se développer le culte de Saint Jean de Pomucène. C'est quelque chose qui est plus ancien. Et il est certain aussi que on disposait à l'époque, et toujours maintenant d'ailleurs, de très peu de documents sur la mort de Jean de Pomuc. Alors, est-ce que ça a été utilisé pour effacer le culte de Jean Hus, comme on le lit parfois? Quand on lit les sermons à la gloire de Saint Jean de Pomucène, quand on voit les gens qui parlent du culte de Saint Jean de Pomucène à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe, on n'a pas vraiment l'impression que la véritable intention dans le développement de ce culte, ce soit vraiment d'effacer le culte de Jean Hus. Il s'agit bien plutôt d'exalter la foi catholique des Tchèques, d'exalter le pays dans une forme typiquement baroque de patriotisme. Et ce patriotisme baroque, on le retrouverait ailleurs qu'autour de Saint Jean de Pomucène, autour de Saint Venceslas, autour de Saint Adalbert. En Moravie, on le trouverait autour du culte de Saint Cyril et Méthode, etc. Donc là, il est certain qu'on a une série de saints typiquement tchèques, mais reste à savoir si ces saints sont utilisés consciemment à des fins de propagande, ce qui me semble, à la lecture des sources, difficile à établir vraiment, ou si ce sont simplement ces membres du haut clergé tchèque qui se sentent à la fois aussi bien tchèques que catholiques, et en tant qu'ils sont et tchèques et catholiques, sont fiers donc de Saint Jean de Pomucène, de Saint Venceslas, de Saint Adalbert, etc. Passé le moment où, au début du XVIIe siècle, on se sert du passé catholique du royaume pour prouver que l'Église catholique est la vraie Église du Christ, ensuite, il reste le culte des saints, et ce culte des saints, comme chacun sait, en Bohême, mais aussi dans tout le reste de l'Europe, c'est lié au patriotisme. Lorsque vous prenez la France du XVIe siècle, ce qui intéresse les Français du XVIe siècle, c'est le culte des saints les plus anciens, et non pas des saints de la fin du Moyen-Âge. Lorsque vous prenez la Bohême du XVIIe siècle, c'est la même chose. Ce qui les intéresse, ce n'est pas des saints victimes, des hussites, etc. Ça, pour eux, c'est beaucoup trop moderne. Ce qui les intéresse, c'est les saints vraiment qui remontent à l'Antiquité.
Finalement, les gens aiment toujours les belles histoires, enfin, ou les contes, finalement, d'une certaine façon, les légendes.
Voilà, quand il y a quelque chose de très ancien qui semble remonter à la nuit des temps et sur lequel tout le monde s'accorde, puisque tout le monde s'accorde sur des personnages comme Saint Venceslas, eh ben, ça convient à tout le monde et ce sont les histoires que les gens préfèrent. Et il est certain que la géographie a ça d'agréable par rapport aux biographies normales, que la géographie, c'est quelque chose qui se termine bien. Et c'est profondément agréable pour le lecteur.
Et puis c'est difficile à contester surtout. Alors pour terminer, justement, pour revenir un petit peu plus dans l'actualité, récemment un collectif d'artistes et de hackers tchèques, le groupe Storoven, qui est assez connu, est intervenu dans l'espace urbain pragois sur un monument qui commémore l'exécution le 21 juin 1621 des 27 leaders de l'insurrection protestante contre le pouvoir des Habsbourg. Ce monument se trouve sur la place de la Vieille Ville, à côté de l'hôtel de ville. Ils ont rajouté une 28e croix au monument dédié en leur mémoire, rappelant l'existence d'un 28e seigneur, Martin Fruwein. Qu'avez-vous pensé de cette intervention moderne?
C'est tout à fait intéressant de voir qu'il y a des gens qui sont capables de fouiller dans l'histoire de leur pays et d'être assez érudits pour rajouter une 28e croix pour le pauvre Martin Fruwein qui était mort avant son exécution. Bon, alors c'est profondément réjouissant de voir qu'il y a des gens qui connaissent si bien l'histoire de leur pays. Alors, que l'on puisse utiliser des événements historiques importants à des fins politiques modernes, c'est quelque chose qui a toujours eu lieu et on peut s'en offusquer en disant que c'est trahir l'histoire telle qu'elle a été vraiment, mais l'histoire finalement n'appartient pas simplement aux historiens, elle appartient à tout le monde, donc il n'y a pas vraiment à formuler d'objection. Pour cette histoire des croix sur le sol de la place de la vieille ville à Prague. Cette exécution est tout à fait intéressante parce qu'elle a eu lieu à un moment où la propagande et la contre-propagande sont telles au début de la guerre de 30 ans que ça devient tout de suite un événement fondamental. et que dès son utilisation par la polémique de la guerre de 30 ans, pro ou anti-Habsbourg, jusqu'à nos jours, l'événement semble avoir gardé une aura tragique. Alors quand on compare avec ce qui se passe dans d'autres pays où il y a des répressions, et des répressions tout à fait sanglantes, voire plus sanglantes finalement que celles de la révolte de Bohème, et où ces répressions sont totalement passées dans l'oubli, on mesure finalement les avantages et les inconvénients de ce qu'on appelle maintenant la mémoire. Et donc c'est plus en fait une question qui a trait à l'histoire de la mémoire qu'à l'histoire simplement du XVIIe siècle.